この番組はラジオカニュー FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。
Mintra, bonjour.
Bonjour. Merci de m'accueillir.
Et donc, on est ensemble ici à Mangazur. David Mintra, je rappelle, vidéaste, réalisateur, chroniqueur, vlogueur aussi. Enfin, comment on peut te définir ?
Oh, c'est difficile parce que je fais plusieurs choses. Bon, je suis ingénieur de jour. Je réalise des vidéos documentaires la nuit et le week-end, je fais des conférences, des show-conférences. Donc, difficile à dire. Bah, je suis multifacette, on peut dire ça.
Et bien, justement, c'était un show-conférence que tu nous as présenté hier. Un show en conférence avec un titre, mais alors ultra accrocheur, qui est comment gâcher son voyage. Non, comment rater son voyage au Japon, exactement. Donc, l'anti-conseil, enfin, les conseils, mais en fait, anti-conseil en quelque sorte, ouais. Pour son voyage dans l'archipel.
C'est ça. En fait, l'idée du concept, c'est que bah, dans les conventions, partout, tu vois, tu vois les directeurs qui te demandent ouais, est-ce que vous pourrez pas participer à une table ronde, comment réussir son voyage, comment préparer son voyage. Avant, j'étais visiteur, hein, avant d'être un invité, et je voyais que les gens s'agglutinent en masse dans ces conférences, puis au fur et à mesure, ils disparaissent. Et ça devient une réunion d'information. Donc quand t'es en convention, tu viens ici pour t'amuser, les gens ils se déguisent et tout. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire comment t'as dit, l'opposé, non, l'anti-conseil ou l'anti-guide,
l'anti-conférence,
ouais. Je me suis dit, ça va être marrant, tiens, comment rater son voyage au Japon, personne l'a inventé ce truc. Et voilà, et donc je me présente comme David Mintra, l'expert mondial dans le plantage, dans les relations diplomatiques avec le Japon, tu vois. Et le précédent titre, c'était « Un rouleau de printemps vous donne des conseils d'experts pour rater votre voyage au Japon
». Un rouleau de printemps, on précise, hein, les origines vietnamiennes, je suppose. Voilà, c'est ça.
C'est ça, ouais. T'es bien cultivé. Ouais, c'est ça.
Mintra, ouais, voilà. Mais alors, du coup, toi, tu es d'origine vietnamienne, mais est-ce que c'est vrai, ce que tu racontes dans la conférence, que les gens t'ont vraiment pris pour un local, au final ?
Ouais, parce que bah avec ma coupe, avec parce que j'adore leur style vestimentaire, j'adore.
Okay, en plus.
Ouais, j'adore leurs vêtements. Bah à Shibuya, tu vois. Enfin, moi je suis pas mal influencé par leur style et bah ma façon de m'habiller et puis ma coupe de cheveux, tout ça. Enfin, ils m'ont pris pour un Japonais, effectivement. Donc du coup, quand tu portes un bandana avec un message dessus marqué spécial attaque, donc on a dû me prendre pour un kamikaze. Surtout que je souriais à chaque fois que je voyais des vieilles dames, des moines. Et en plus, tu combines ça sur le chemin de la philosophie. Là, t'es un super provocateur, quoi.
Le chemin de la philosophie à Kyoto, on précise. Mais c'est pas des choses que tu as entendues par le biais d'autres personnes. C'est vraiment des mésaventures qui te sont arrivées.
Oui. Effectivement, tout ce que je raconte, c'est vrai. Et c'est ce qui fait que bah, le show conférence est unique. C'est que j'ai vraiment vécu ça. Et surtout, c'est que c'est très personnel. C'est que je donne des conseils. En plus, tu rajoutes la tête d'asiatique comme moi, tu vois. Donc, du coup, tu amplifies l'impact, en fait, de l'incompréhension entre un étranger et un local. La réalité, c'est que en utilisant cette forme d'anti-guide de voyage, ben, je montre aux gens qu'est-ce qu'il faut exactement ne pas faire s'ils veulent le réussir, leur voyage.
C'est peut-être même plus fun d'ailleurs que les vidéos que je vois à droite à gauche aussi sur YouTube, genre 5 conseils pour ne pas manquer de courtoisie aux Japonais. C'est quand même beaucoup plus fun d'un seul coup.
Ouais, je pense que c'est ça, parce que ouais, c'est du classique, tout le monde le fait, le top 5 des meilleures manières, le top 5 des meilleurs comportements, tout ça. Et moi je me suis dit, tiens, bah autant mais bien enfoncer le clou, et bien si vous voulez vraiment bien rater votre voyage au Japon, moi je suis ceinture noire de cette discipline.
Ceinture noire de plantage, parfait. Et ici en plus à Mangazur, tu nous as présenté ça sur la grande scène, et justement, petite question sur Mangazur, comment il est le public ?
Ah, public, je crois que c'est le... Mangazur, c'est le public, selon moi, ou l'un des top 3 publics, top 5 des publics les plus chauds de France, pour moi. J'en ai fait des conventions, hein. je vais pas citer les autres qui sont si bonnes, hein, mais je dirais bien top 3, top 5, allez, top 3, quoi. Top 3, parce que c'était un public de malade. À chaque fois, ça réagit, toi, quand t'es artiste, et que, bon, ça, j'espère que ça s'est vu, mais je bosse beaucoup, en fait, mes interventions sur scène. Au fur et à mesure, je les améliore, et ça joue sur des détails. Et quand je vois que, voilà, les détails que j'ai bien travaillé pendant des semaines, et que je vois que, à chaque fois que je les réalise sur scène, parce qu'il y a des répétitions derrière, et que je vois qu'il y a des réactions, du rire, des cris, et puis quand il y a le quiz, parce qu'à un moment donné, je fais monter 3 candidats, les plus fous, et alors là, j'avais l'embarras du choix. Voilà, en tant qu'artiste, en tant que créateur, quand t'es... quant à ces ingrédients-là, ben c'est génial. En fait, ça donne un contenu explosif et c'est hyper gratifiant quand tu fais ça parce que tu travailles beaucoup pour obtenir un résultat. Et quand tu l'as, c'est génial parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand je viens dans une ville que je ne connais pas, j'ai toujours le stress de me dire, voilà, je donne le maximum, mais est-ce que le public va suivre ?
Alors tu es sur scène, tu as ce talent effectivement de pouvoir nous proposer quelque chose qui est fait de manière assez, on va dire, décontractée, mais contrairement à certains humoristes parisiens, non, c'est pas entièrement de l'improvisation, tu l'as préparé, explique-nous un petit peu comment ça se prépare justement ce genre de spectacle.
Bah, j'avais listé toutes les anecdotes qui faisaient rire mon entourage, issues de mon premier voyage. Parce que, juste pour précision, voilà, mon premier voyage, j'avais l'impression de le rater, j'avais rien filmé. Et à partir de là, je me suis renseigné pour pouvoir tourner des saisons vidéo. Et je me suis dit, tiens, mon premier voyage, j'aimerais bien le recycler quelque part, parce qu'à chaque fois, je faisais rire mes potes. Et quand on m'a invité dans les conventions, je me suis dit, bah tiens, c'est au lieu de faire une conférence classique, on va essayer d'écrire un stand-up. Et donc, j'ai listé tout ce que j'ai vécu pendant le premier voyage. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à le mettre en scène. Mais y a quand même une part d'improvisation parce que, comment te dire, en fonction de la réaction du public, bon voilà, t'as un squelette, mais j'ai pas écrit de texte en fait. Y a pas de texte, c'est juste que je sais de quoi je vais parler et pour être plus naturel et puis pour donner cette impression d'improvisation, c'est vrai que j'ai pas de texte, mais je sais ce que je dis. Donc en fait, y a un sommaire, voilà. En fait, le sommaire est calibré. Mais l'interprétation, la mise en scène, etc., je sais à peu près comment je dois bouger, etc., mais le texte n'est pas du tout appris par cœur. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être grâce à ça que ça donne une impression d'improvisation. Enfin, voilà. En fait, oui, c'est une semi-improvisation, on va dire.
T'es parti combien de fois, du coup, au Japon ? Parce que là, c'est surtout des récits sur le premier voyage, mais tu es parti combien de fois ?
Entre 5 et 7.
D'accord. Chaque fois, de plusieurs semaines.
Oui, alors la première fois, 2 semaines, mais je te conseille pas 2 semaines. 2 semaines, c'est le minimum, mais je te conseille pas, plutôt 3 semaines. Après, je suis parti minimum 3 semaines à chaque fois.
Bon, t'as réussi à sortir de Tokyo, de voir d'autres régions. Tu parlais de Kyoto notamment.
Ouais, Kyoto. Bah, la première fois, j'ai fait les classiques. La deuxième fois, j'ai fait des classiques plus des extras. Après, j'ai réalisé un rêve. C'est depuis que je suis allé au Japon, je voulais inviter mes parents. Donc, je les ai invités on a fait un voyage tous les trois de 3 semaines. Mais Tokyo et ses alentours, parce que vu qu'ils sont quand même plutôt âgés. Et après, j'ai eu la chance d'être contacté par le gouvernement japonais qui m'a invité pour tourner la Bretagne japonaise. Je suis parti à Kanazawa parce qu'à l'époque, ouais, c'était. Il faut savoir, il y a une ligne de chemin de fer entre Tokyo et Kanazawa. Et ils mettaient 4h30 pour rejoindre les deux villes. Et ils ont sorti un nouveau train qui rejoint les deux villes en 2h30. Donc ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez faire une vidéo ? Je lui ai dit, pas de problème. Et 3 ans après, bah là, j'en reviens d'un voyage en novembre. Ils m'ont dit, cette fois, c'est pas 3 villes, mais vous êtes sélectionné pour représenter la France. Et on vous fait visiter une vingtaine de villes. Je lui ai dit, banco, j'y vais, quoi. Et justement, je vais sortir l'épisode de lancement de la saison 3. Alors, ça sera soit... On est quoi ? On est en avril ? Ouais, je vais sortir en avril-mai, je pense.
parler justement de cette fameuse série. Japon, qui es-tu? Alors, bah, justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas justement Japon, qui es-tu? Bah, qui es-tu?
Oui, alors pourquoi le titre déjà? C'est que quand je suis allé au Japon la première fois, comme je le disais, j'avais l'impression de l'avoir raté, mais j'avais un sentiment qu'il y avait une âme dans ce pays. C'est-à-dire que chaque détail a un sens dans les temples, la propreté a un sens, etc. Et j'ai voulu connaître le Japon, donc je l'ai étudié, et plus j'avançais, et plus j'avais l'impression de m'adresser à une personne. Et au bout d'un moment, en fait, le titre, il est venu de lui-même. J'ai l'impression de m'adresser à quelqu'un, mais Japon, qui es-tu? Et c'est une question qui me taraudait tout le temps. Et j'ai trouvé le titre naturellement. Et ça répondait aussi à la synopsis de cette série. C'est, voilà, Japon, t'as une âme, j'ai envie de m'adresser à toi. Japon, qui es-tu? Et à travers différents épisodes, je vulgarise la culture japonaise.
On précise aussi que techniquement, tu réalises ça seul, du
seul,
coup.
Seul.
T'as pas d'équipe avec toi, quoi, du coup.
Non, j'en ai aucune. J'aurais bien aimé.
Tu montes tout ça dans ton coin et...
Ouais, ouais, le cadrage aussi. Alors des fois, bon voilà, il y a des traveling. Ça, c'est la partie marrante, c'est que j'essaye de parler par geste en essayant de trouver un japonais sur la route, en lui disant ouais voilà, est-ce que vous pouvez me prendre en photo, en vidéo. Alors les gens, en fait, ils rigolent parce que d'habitude ils ont l'habitude de voir des étrangers qui leur demandent de prendre une photo. Moi, je leur demande de me prendre en vidéo et je leur montre comment cadrer, faire un travelling, etc. Et c'est fun. Donc à chaque fois, voilà, ils me disent mais vous êtes quoi, vous êtes reporter? Je dis, non, je suis vidéaste sur YouTube. Et donc bon, à chaque fois, voilà, il y a toujours un échange, et c'est à partir de là que tu crées un contact. Et des fois, je les revois, ces gens là je les ai rencontrés juste une fois. Et voilà, je garde contact avec eux.
Et ces gens-là, tu arrives à les aborder facilement, ou alors tu te retrouves avec une armée de avec les bras en croix, genre ne me parlez pas?
Ouais, ça m'arrive. Je me prends des râteaux parce que les Japonais, ils sont. Alors, on m'a expliqué que des fois, pourquoi je me faisais remballer par des Japonais, c'est que ils attendent de bien parler anglais avant de pouvoir s'exprimer avec un étranger, parce qu'ils veulent pas, enfin c'est un peu l'esprit Bushido, pas perdre la face face à l'étranger. C'est que quand on veut toujours montrer notre meilleur profil face aux étrangers, et pour moi, voilà, pour parler anglais, il faut faire des mistakes, il faut faire des erreurs, et eux, ils préfèrent faire leurs mistakes dans leur coin avant de parler. Et au final, tu te retrouves avec des gens qui veulent pas te cadrer, enfin pas te prendre en photo ni en vidéo, parce qu'ils parlent pas très bien anglais, et c'est dommage.
Parce qu'ils ont peur de pas, enfin ils ont peur de pas pouvoir interagir, c'est ça.
C'est ça. Ils ont peur de, oh là là, mais le rôle au printemps, là, il va peut-être me poser une question après, je vais pas pouvoir répondre et je vais perdre la face.
Qu'est-ce qu'il veut, ce mec, en plus?
Ouais, c'est ça, là, avec sa tête de japonais, là. Il m'a bien eu. Je te dis, j'ai dit Sumimasen, tu vois, il prononce super bien. Hi, tu vois, t'entends le mot. Oui, oui, oui. C'est hi, hi. Et puis là, tu pars en anglais, tu vois. Avec les mains en croix, comme ça, ce qui veut dire, enfin, t'as un gros X qui te montre, enfin, là, il te croise les bras.
C'est X-Japan, mais on est dans la vie de tous les jours, quoi, finalement.
Ah, c'est ça. Et moi, je l'ai pris comme un bras d'honneur. Non, mais c'est violent, hein, c'est gros comme ça, tu vois. Et c'est pas un bras d'honneur, c'est juste non. Non,
c'est genre, j'ose pas le dire, mais venez pas me parler.
Voilà, c'est ça. Je parle pas anglais. Voilà.
Toi, est-ce que tu as appris justement quelques mots en japonais, des manières de converser un petit peu, au moins d'aborder les gens, j'imagine?
Si. Bah, par exemple, j'avais. Alors, dès que je suis rentré, j'ai appris un truc, tu vas rigoler. J'ai appris comment dire où sont les toilettes. parce que mon premier ratage avec les japonais, c'est de leur demander où sont les toilettes. Donc excuse me, where is the toilet? J'ai appris ça en japonais, c'est toilet wa doko desu ka. Au moins apprendre ça, parce que ça a l'air bête, mais ça a été une horreur la première fois. Et en fait, ma vessie commençait à gonfler. J'ai attendu, j'ai l'impression d'être Obélix qui marchait autour de Shibuya à essayer de trouver des toilettes. Et plus jamais ça se reproduira, parce que je sais où sont les toilettes. Et même si tu prends, tu vois, des toilettes en photo et que tu montes ça à un salaryman, juste pour avoir la paix, il va prendre l'image, il va dire waouh, c'est une belle photo, et là t'en as marre, quoi. Ah, je m'y mets. Donc pour me faire comprendre, j'ai dû mettre ma main entre les jambes pour qu'ils puissent comprendre que j'avais envie de me vider.
Voilà. Enfin, de subvenir à tes besoins naturels, on va dire.
Ouais, c'est ça.
Dernière aussi remarque par rapport à ton show, et c'est vraiment en plus une remarque à laquelle j'aurais absolument pas pensé, et en même temps elle fait complètement sens. C'est comparer Shibuya à Times Square. C'est vrai, Shibuya, c'est un peu le Times Square. designer japonais.
Ouais. Bah, il fallait que je trouve une métaphore, tu sais, parce que dans les conventions ou dans des conventions, voilà, enfin, j'essaie de me mettre à la place du public et je me dis, des fois, je vois des enfants qui sont passionnés du Japon, ils connaissent Shibuya, mais ils attirent leurs parents dans mes conférences. Ou le petit copain qui est fou de Japon et qui amène sa copine, qui est pas du tout fan de voyage ni du Japon. Et je me dis, tiens, comment leur faire comprendre Shibuya? Donc Shibuya, pour moi, alors il y a quoi comme équivalent, mais beaucoup plus connu? Bah, Times Square. C'est vrai, Times Square, t'es d'accord, c'est un carrefour, en fait. C'est un carrefour avec plein de...
C'est le grand carrefour urbain emblématique de New York, quoi, on est d'accord.
C'est ça. Voilà. Et comme New York, il faut le dire, c'est l'une des villes les plus marketées au monde avec Paris. Et Londres. Donc du coup, je me dis bon bah Tokyo, Shibuya, ça parle beaucoup, mais beaucoup moins que Times Square. Et j'ai pensé à Times Square.
On va parler un petit peu aussi de ton parcours, parce que du coup, tu es stéphanois en plus, donc ouais. donc un petit gars de la région en plus de ça. En gros, quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a fait justement passer de Saint-Étienne à aujourd'hui justement cette audience de convention en convention, si j'ose dire, quoi?
Allez, je vais essayer de résumer très très brièvement. Je suis né à Saint-Étienne, donc c'est pour ça que voilà, j'ai vécu à Saint-Étienne jusqu'à mes 18 ans. Et pourquoi je suis monté à Paris, c'est que ma sœur vivait à Paris et que mes parents, ils voulaient m'inscrire dans une bonne école. Et à l'époque, voilà, on parlait beaucoup du bug de l'an 2000. Je savais pas quoi faire et j'étais à mes parents. Je voulais faire des trucages au cinéma. J'aurais dit ça parce que j'étais fasciné par les films comme Terminator, Titanic, tout ça. Et mes parents, ils voulaient absolument que je fasse une école d'ingénieur. Et je leur ai dit non, mais moi je veux faire des trucages, tout ça. Et je dis oh, non, mais t'inquiète pas, tu fais école d'ingénieur, il y a toutes les voies qui sont ouvertes à toi, quoi. Et donc je suis rentré en école. Ils m'ont bien eu parce que quand je suis sorti, j'ai commencé ma carrière dans l'informatique financière. Je me suis bien fait chier. Voilà. Et puis petit à petit, je me suis orienté vers quelque chose qui me plaisait. Mais voilà, pour faire un bref résumé. Et je connais très bien Lyon parce que Saint-Étienne, c'est à côté de Lyon, quoi. Et Lyon, c'est aussi mon enfance parce que Saint-Étienne, c'est plus petit comme ville. Et comme nous, j'ai des origines vietnamiennes, il y a un quartier asiatique. Et mes parents allaient tout le temps là-bas pour aller louer des cassettes vidéo, plein de trucs, voilà. Et Lyon, je suis très familier avec cette ville, j'adore cette ville. Et même s'il y a des rivalités dans le football, moi j'aime beaucoup les deux villes, quoi. Et voilà, moi je me suis jamais fait narguer. C'est juste que pour le foot, on s'est toujours nargué un
peu. Normal. Ça va au-delà du foot, ça.
Ça va au-delà du foot. Mais sinon, non, moi j'adore les Lyonnais. Enfin, moi j'adore Lyon. Et c'est génial pour sortir. Enfin, j'aimais beaucoup Lyon et j'adore Saint-Étienne aussi.
Ben voilà, ouais. Parfait. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Canyon 102.2 FM.